Nous avons un plan, grâce à la puissance de nos forces armées, qui prévoit que tous les ponts d'Iran seront détruits, que toutes les centrales électriques d'Iran seront hors service, brûleront, exploseront et ne pourront plus jamais être utilisées. Une destruction totale, et si nous le voulons, cela se fera en l'espace de 4 heures.
Putain de missile téléguidé qui rase un village. C'est le concept ultime. La guerre qui sauve des vies. Génial.
Vous vous souvenez, c'était dans les Guignols.
Le commandant Sylvestre.
Le commandant Sylvestre, le maître du monde, sous les traits de Sylvester Stallone. Effectivement, donc Donald Trump commence à en avoir ras-le-bol. Il veut terminer sa guerre avec l'Iran. C'est le déluge de feu, c'est l'enfer. Et s'il veut, il règle le problème en moins de 4 heures, Donald Trump.
Alors, en tout cas, le compte à rebours est lancé. Alors, il a repoussé de 24 heures son ultimatum qui doit expirer dans quelques heures. Mais pour l'instant, le régime iranien résiste. Dénonce d'ailleurs cette rhétorique grossière et arrogante du président américain. Donc on est dans un bras de fer. On nous parle de négociations, de cesser le feu, etc. Visiblement, tout ça semble s'éloigner. Et le moment de vérité est là. Alors effectivement, les Américains peuvent taper encore plus fort que ce qu'ils ont fait. Est-ce que ça fera plier l'Iran ? On a bien compris que le régime des Mollahs avait comme seule arme véritablement le détroit d'Ormuz. Certes, il lance des missiles, etc., qui peuvent parfois tuer, mais c'est quand même assez peu par rapport à l'armada qu'il y a en face. Le détroit d'Ormuz, en revanche, est un moyen de pression. Donc, est-ce que Trump doit taper le plus fort possible pour faire céder, une fois pour toutes, le régime iranien ?
Jean-Loup.
Alors, non, mais c'est très intéressant parce que, premièrement, j'entends les déclarations de Donald Trump qui sont un parfait résumé de ce qu'est, point de vue de la définition du droit international, un crime de guerre. Parce que si je fais sauter tous les ponts qui sont des ouvrages civils d'un pays, si je fais sauter les stations électriques qui sont des infrastructures civiles qui servent à la population, eh bien je commets typiquement un crime de guerre. Donc très bien, mais à partir de là, il ne faudra plus jamais dénoncer aucun crime de guerre, et surtout pas ceux de Monsieur Poutine, parce qu'on n'est plus du tout crédible. Donc là, typiquement, Donald Trump menace de commettre un crime de guerre et annonce qu'il va peut-être, potentiellement, commettre un crime de guerre. Deuxièmement, je pense que Donald Trump fait ça parce qu'il est lui-même, en fait, aux abois pour, je pense que pour la première fois depuis longtemps dans sa vie, il dort mal la nuit parce qu'il sait qu'il a fait une énorme connerie. Il se rend compte qu'en fait, cette guerre s'enlise et qu'il a une supériorité militaire, mais il n'arrive pas à la convertir politiquement. C'est une impasse politique, il n'y a pas d'issue politique. Vis-à-vis de la population américaine, il avait été élu en 2016 et en 2024 sur un programme isolationniste anti-guerre, avec un slogan en 2024 « J'arrêterai toutes les guerres ». Là, il fait totalement l'opposé. Il sait que cette guerre est impopulaire aux États-Unis. Il voit qu'en fait, il n'y a pas d'issue politique claire, et donc qu'il est dans une impasse et qu'il s'est mis lui-même dans un bourbier. Et donc, il essaye, il joue au poker et il menace. Il menace de crimes de guerre. Et voilà, mais parce qu'en fait, il a fait une immense connerie. Et moi, je pense qu'il faut arrêter cette guerre, revenir à la table des négociations, donner du temps aux négociations et arrêter les aventures militaires délirantes qui se concluront, comme toujours, par un fiasco.
Laura ?
Donc, toi, tu négocies avec des gens qui massacrent leur population ?
Bah oui.
D'accord, ok.
Ok, bah et oui, donc, ça s'appelle la diplomatie.
Je peux finir une phrase ?
Oui, bah tu m'as posé une question, je te réponds, sœur.
Ce que j'essaye de dire, c'est que tu as l'ensemble, tu as quand même dans ces régimes des gens qui lapident, qui tuent.
Ok.
Ok, donc toi en fait, je finis. Trump, moi la seule chose qui me déçoit dans le conflit actuel, c'est que moi j'avais vu Trump, bien que à certains égards j'ai très peur de ce monsieur, j'avais vu Trump comme la seule personne qui était capable de sauver les femmes d'Iran.
Et en fait, t'aimes pas Trump, mais quand il tue des musulmans, là, tout d'un coup, c'est super.
Est-ce que tu m'as entendu parler de musulmans?
C'est exactement ce que vous pensez. La vie des Iraniens n'a pas de valeur pour vous.
Oui, c'est bien sûr.
Et les 135 fillettes tuées. Les femmes iraniennes,
qu'est-ce que je suis en train de dire?
Ça montre la faiblesse de tes arguments.
Qu'est-ce que je suis en train de te dire, Jean-Loup? Moi, je te parle juste à une population qui a été décimée par leur propre gouvernement.
Ok.
Ce sont des femmes qui hurlent, ce sont des femmes qui sont brûlées à l'acide, ce sont des femmes qu'on lapide, ce sont des gens qui sont obligés de s'expatrier de leur propre pays pour leur survie.
Pas que les femmes hein, qui sont pendues.
Et non, t'as les hommes qui ont la décence de soutenir les femmes, eux
et,
c'est pareil.
Et qui sont pendues.
Donc je suis désolée. Exactement. Moi j'estime que c'est une réponse à non, peut-être pas un crime de guerre, mais un crime contre l'humanité. Quand tu as des gens qui se font tuer parce qu'ils sont homosexuels... Quand
ah bah
tu
c'est as sûr, des... faut faire des guerres à tous les pays qui oppriment les femmes. On va être en guerre avec les trois quarts du monde, mais bon.
Et ça te pose aucun problème que la moitié du club ah bah, se fasse opprimer?
Ma réponse est très simple, ce n'est pas mon problème. Occupons-nous des affaires françaises.
Et alors tu veux que je te dise, Jean-Loup...
La liberté des femmes iraniennes, qui est très noble, dépend des femmes iraniennes
alors,
elles-mêmes. Ce n'est pas à
tout,
nous, et
pas
à moins
tout.
À Israël
quand
aux États-Unis
quand on te met, Mais alors je vais te dire quelque chose. Moi, tous les gens là au Soudan qui se font massacrer entre eux, et là c'est pas une question d'arabe pas arabe, de noir pas de noir, c'est des noirs qui butent des noirs, ça me révolte.
Mais oui, faisons des guerres, envahissons le Soudan.
Mais j'ai peut-être envie de vivre dans un monde où une gamine de 6 ans ne se fait pas exciser avant de se marier avec un mec de 70. Pardon, oui ça me concerne.
Mais faisons une guerre, envahissons tous les pays du Sahel.
Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Tu vas aller prendre tes sous, tu vas te mettre ton argent de côté, tu vas vivre avec ta petite vie de prof de philo qui se préoccupe de la vie de personne, tu n'es qu'un égoïste.
Mais oui, bombardons-les pour les libérer et leur apporter la belle démocratie féministe occidentale. Comme ça, toutes ces fillettes excisées, quand elles seront en morceaux sous tes belles bombes, eh ben, elles seront plus libres.
Mais t'as demandé au peuple iranien? Est-ce que tu as vu comment le peuple iranien a accueilli Donald Trump? Est-ce que tu as vu comment ils l'ont accueilli?
Ah bah, qui n'était pas d'accord?
Les gens qui n'étaient pas d'accord sont des gens qui cachent leurs femmes sous des capes noires, qui les empêchent de voter, qui les empêchent de manger, qui les empêchent de vivre, et qu'on découpe les parties vaginales pour être sûr qu'elles ne prennent aucun plaisir.
Alors pas en Iran?
Ah bon, les Mollahs, ils font pas ça?
Il n'y a pas d'excision en Iran.
Ah bon, alors,
l'excision n'existe pas en Iran.
Mais c'est génial.
Y a pas
alors dans ces cas-là,
Iran,
une femme qui décide d'enlever son roche, on la couvre pas sous l'acide.
Et ensuite, dans les facs iraniennes, dans les universités iraniennes, il y a plus d'étudiantes, il y a plus de filles que de garçons dans les facs en Iran. C'est un fait.
Arrêtez de
des femmes ingénieures, il y a des femmes scientifiques en Iran. Mais attends, j'ai juste posé une question.
Non, j'ai plus envie de... Franchement, j'ai pas envie de parler à un mec comme toi, je te dis.
Non, mais si, tu vas continuer.
Est-ce que du coup, il faut déclarer la guerre à la Chine? Parce que la Chine enferme des millions de Ouïghours dans des camps de concentration.
Oui,
alors on déclare la guerre à la Chine.
Je trouve ça honteux.
Eh ben, déclare la guerre à la Chine.
Écoute-moi bien.
Envahis la Chine.
Mais je suis présidente.
Ouais.
Je suis présidente. Mais entre soutenir un régime qui lapide et
personne
ne pas l'attaquer...
Personne ne soutient le régime iranien ici. Non.
Toi.
Non.
Personne ne soutient le régime iranien ici.
Non, non. Jean-Loup dit que la guerre est illégale.
Malheureusement,
et absurde et une impasse.
Je crains que... D'abord, les Iraniens quand même nous gonflent avec leur uranium, hein. Et à un moment, ils font quand même chier tout le monde.
On en a aussi de l'uranium.
Projet.
Hein.
Oui, mais on n'est pas une théocratie qui pend des gens sur la place publique.
Donc Israël a la bombe atomique.
Que quelques pays aient la bombe atomique.
Le Pakistan voisin de l'Iran. Là.
Bon, enfin, mettre une bombe atomique dans les mains de terroristes. Excuse-moi, c'est un chouïa différent.
Pas forcément une bonne chose qu'un pays qui promet.
Surtout, nous, on ne menace pas
depuis des années.
Jean-Loup, ça t'a pas échappé.
De rayer un autre État de la carte se dote de la bombe atomique. Là-dessus, t'es quand même d'accord.
Ah mais moi, je suis pas pour qu'il y ait une bombe iranienne. Bon. Simplement, je constate qu'il y a une bombe israélienne atomique, mais qui ne menace pas.
Israël,
qui ne menace pas une bombe atomique pakistanaise. Voisin de l'Iran, moi je serais iranien, je serais un peu inquiet d'avoir des voisins pakistanais avec la bombe atomique. Et surtout, juste un point sur la bombe atomique. Là, il y avait des négociations juste avant la guerre. Pendant les négociations, alors que les négociations étaient en cours, et que les Américains eux-mêmes, c'est pas moi qui le dis, c'est les Américains avaient dit, ces négociations ne sont pas infructueuses, elles donnent des résultats. Finalement, par surprise et illégalement, en violation du droit international, les États-Unis ont frappé l'Iran.
Ça fait des années qu'on
les autres pays, quelles conclusions ils vont en tirer? Ils vont se dire, on ne peut pas négocier avec les États-Unis, ce pays n'est pas fiable, la seule sécurité, c'est d'avoir la bombe atomique.
En fait, c'est amusant parce que
ça va liguer la détestation des États-Unis. Non mais Jean-Loup,
c'est l'inverse. Ça va liguer le monde non occidental contre l'Occident.
C'est l'inversion accusatoire, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ça, c'est l'Iran qui est victime et c'est l'Iran qu'il faut protéger. Je vais terminer parce que s'il y a que toi qui parles, il n'y a pas de débat.
Il n'y a que moi qui dis des choses intéressantes.
Pardon, mais aujourd'hui, il est avéré que l'Iran a menti dans ses négociations. C'est pas moi qui le dis, c'est le chef des inspecteurs qui a dit que l'Iran cachait de l'uranium et que le régime des Mollahs n'avait pas l'intention, contrairement à ce qu'il a pu avancer, à renoncer à son programme nucléaire. Un pays qui menace directement un autre pays de le détruire, doit-il posséder l'arme nucléaire? C'est ça la vraie question. Charles. C'est ça la vraie question. Donc, bah, a priori, on va répondre non. Alors, comment faire pour l'empêcher?
Mais alors, moi,
comment faire pour l'empêcher?
Ça fait des années que les Iraniens prétendent avancer vers le désarmement nucléaire et qu'en fait, évidemment, en loose day, ils fabriquent leurs bombes nucléaires. Il n'y a pas besoin
dans des tunnels,
d'avoir fait l'école du Quai d'Orsay pour comprendre ça, ni voilà. Donc, Trump, il est dans la nasse parce qu'il a lancé effectivement cette opération, voilà. Manifestement sans l'avoir beaucoup préparée, et il se rend compte que c'est pas aussi rapide qu'il l'espérait, et qu'en plus, il y a des dommages collatéraux quand même assez sérieux avec ce putain de détroit d'Hormuz, si vous me passez l'expression, mais je me mets dans son esprit. Le feu donc, je crains qu'il n'ait malheureusement pas d'autre choix, comme il a pas envie de balancer 20 000 Marines ou 30 000 ou 40 000 sur le sol iranien. Je pense qu'il a pas d'autre choix là que de bombarder comme un sourd jusqu'à ce que les Iraniens craquent.
Et donc de tuer des milliers de civils.
Mais je pense.
Il n'y a pas des milliers de civils.
Si on détruit toutes les centrales électriques.
Moi, je pense que ça ne marchera pas. C'est-à-dire, ils vont effectivement bombarder comme des malades, ils vont péter des ponts, des trucs, etc. Ils vont y aller vraiment comme des dingues, y compris jusqu'à mettre la population civile dans une situation compliquée. Mais les mollahs, qui sont des fous furieux, ne lâcheront pas. Ils n'ont aucun intérêt à lâcher. Donc, ils ne vont pas lâcher.
Le temps joue pour eux.
Et en réalité, ce qui va se passer, c'est que Trump, une fois qu'il aura balancé des hectotonnes de bombes là-bas, va se retirer. Et petit à petit, ce détroit va se débloquer avec un Iran qui sera en lambeaux, mais c'est tout ce qu'on. Et les mollahs seront toujours au pouvoir.
Et la population iranienne s'en tiendra pas beaucoup mieux. Et c'est ce qui est désolant dans cette histoire. C'est-à-dire que sous prétexte.
Ça, l'histoire n'est pas écrite encore. Pardon.
Non, mais enfin,
l'histoire n'est pas écrite dans
tu regardes,
conflit.
Tu regardes.
Et de ce qui se passe
après la guerre.
Régime terroriste,
Afghanistan, regarde les conditions des femmes. Les mollahs, regarde
les conditions
des femmes.
Les Américains sont plantés
pardon.
Aussi, d'ailleurs.
Mais à un moment donné.
Mais ça, c'est pas de la faute des Américains, hein.
J'ai pas dit que c'est la faute des Américains.
Oui.
Je dis que
ils sont partis la queue basse.
Je dis que malheureusement à chaque fois pour des raisons plus ou moins géopolitiques, on laisse la moitié de la population se faire éclater et apparemment ça ne choque pas, c'est normal, on s'en fout des autres. Mais moi j'adorerais être l'ami de Jean-Loup, putain.
Oui, c'est vrai.
Mais faisons la guerre à la Chine. Allons libérer les Ouïghours à coups de bombes atomiques.
Fred, bonjour.
Oui, bonjour.
Ingénieur du son Fred du côté de Paris. Qu'est-ce que vous en pensez, Fred?
Bah écoutez, c'est l'impasse parce que je pense qu'on a des visions qui sont altérées des deux camps entre guillemets, c'est-à-dire qu'on nous a vendu des Iraniens un peu comme des barbares sauvages sans aucune intelligence, et il s'avère que au final ils ont plutôt stratégiquement bien joué leur coup, puisque malgré la puissance américaine et israélienne, ça n'avance pas en fait. Mm-hmm. On nous a dit qu'on allait décapiter le régime et que le peuple allait prendre le pouvoir. Bon, on se rend compte que c'était pas vrai et que c'était pas possible surtout. Donc, alors on bombarde pour libérer des gens qui au final on va faire encore plus de mal, puisqu'on va bombarder leur infrastructure civile, leurs ponts, leurs centrales nucléaires, leurs centrales électriques et tout ça. Donc au final, quand ce sera fini, ils seront encore pires qu'avant. Ils auront toujours les mollahs, ils auront un pays détruit. Donc à quoi ça sert?
Ça n'en sait rien, Fred. Alors déjà, moi j'adore les gens qui font. Non, mais j'adore les gens qui font sur. Alors on est tout. Maintenant, tout le monde est devenu. Alors Jean-Loup est juriste international, donc il est capable de nous dire ce qu'est un crime de guerre et pas un crime de guerre.
Quand j'en ai un sous les yeux, oui.
Là, tout le monde est stratège. Maintenant, tout le monde. On n'en sait rien. Peut-être qu'effectivement, après cette guerre, si elle s'arrête là, peut-être que le régime des mollahs, quand même, qui est très affaibli, contrairement à ce qu'on raconte, puisque la plupart de ses têtes ont été tuées, peut tomber aussi derrière. La population peut se révolter. Et cette fois-ci, ça peut marcher. D'ailleurs, je pense que la grande crainte du régime des mollahs, c'est l'après-guerre. C'est qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il n'y aura plus les bombes, que la population, peut-être à ce moment-là, décidera définitivement de renverser ce régime. Alors, la dernière fois, parce que tu parlais des civils, mais je rappellerai quand même que le plus grand crime commis sur le sol iranien a été commis il y a quelques semaines, en deux jours, où entre 30 000 et 40 000 femmes, hommes et parfois des très jeunes ont été massacrés par le régime. C'est ça le vrai crime commis ces dernières semaines, c'est celui-là.
Allez-y, Fred. Merci.
Et j'ai vu d'ailleurs les étudiants de Sciences Po manifester à ce moment-là. Je m'étonne.
Ça sert à rien en fait ce que vous racontez d'incriminer les étudiants de Sciences Po. Ils y sont pour rien en fait.
Voilà. Ils manifestaient pour Gaza, mais ils manifestent pas pour l'Iran.
Mais ils font ce qu'ils veulent en fait.
Oui. J'ai bien compris.
faut arrêter.
J'ai bien compris qu'ils faisaient, qu'ils choisissaient leur cause.
On veut parler ou pas, ou sinon vous faites votre monologue, parce que bon, la propagande américaine, on la connaît par cœur, hein, vous savez.
Moi, la propagande américaine.
Allez-y, Fred. Simplement, je vous dis juste simplement, c'est pas histoire d'être spécialiste du droit international ou pas. C'est-à-dire qu'on voit, on regarde et on s'aperçoit que ces populations iraniennes. Au début, c'était les mollahs qui les massacraient, et maintenant, c'est les bombes qui les massacrent.
Mais non, mais non.
Vous dites mais non. Et mais en plus, si vous lisez la presse américaine, la presse anglaise, etc., ils vous expliquent que la population est absolument terrorisée par le massacre qu'il y a eu il y a quelques semaines, et ils ne vont pas se révolter.
Très bien
qu'à partir du moment où ils vont être dans la rue, ils vont se faire massacrer.
Bah pour l'instant, les Iraniens ne se révoltent pas. Bah ils se révolteront normal, encore moins sous les bombes.
Tu sais, aujourd'hui,
personne n'aime les missionnaires armés.
Les Iraniens ont peur parce que s'il y a bien un régime qui ne protège pas sa population, c'est le régime des mollahs. Il n'y a pas d'abri comme en Israël. Il n'y a pas d'alerte. C'est-à-dire que quand un missile arrive, personne ne prévient la population. Donc effectivement, la population iranienne vit sous la crainte de prendre une bombe.
Le plus simple, c'est de ne pas les bombarder.
Les Anglais ont bombardé la France pour notre bien.
Allez-y,
allez-y. Bombarder Dresde.
Allez-y.
Jean-Louis Bonamy nous aurait dit à ces moments-là qu'il fallait pas bombarder Dresde.
Attendez, j'aurais que Fred finisse.
Ouais, je disais simplement, il y a énormément de pays qui n'ont pas de sirènes, qui n'ont pas d'abri, et si jamais ils sont bombardés, ils sont bombardés comme à peu près tout le monde. Hein. Israël n'est pas.
C'est pour ça qu'il y a très peu de victimes en Israël, parce que il y a un système. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un système très bien fait d'alerte, d'abri, des SMS, etc., qui n'existe pas en Iran.
Qui est lié à leur contexte.
C'est un gouvernement qui protège la population.
Juste Fred. Là, j'ai regardé selon les autorités iraniennes. On a entre 1200 et 1300 morts depuis le début du conflit de victimes iraniennes. Donc, cette guerre a tué, et c'est très très triste, à peu près entre 1200 et 1300 personnes avec ce conflit. L'Iran, juste avant ce conflit, a massacré plus de 40 000 personnes. Qui a commencé la guerre? Qui
c'est
a cherché
guerre, c'est la politique
toi,
intérieure iranienne.
Non,
c'est la politique
ça, Laura,
intérieure
s'il te plaît,
iranienne.
C'est bon, calme-toi. Dans un instant, on continue de discuter.
Attends. C'est le pluraliste, Jean-Loup est facho.
On cherche pourquoi il est ça.
Ah bon enfin,
ah pardon. Mais il n'aura pas d'attaque personnelle non plus, s'il te plaît.
Non, Jean-Loup est mollah.
Ces gens, tout les gens redescend un peu tranquillement. Que la vie des Arabes et des Iraniens vaut moins que celle des Occidentaux.
Au contraire,
c'est ça, il est 10h20.
Défend la vie des Iraniens.
Il est 10h20, merci à Fred. On continue de discuter dans un instant. À tout de suite avec nous sur RMC, RMC Story.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Il est 10h25, vous êtes avec nous sur RMC, RMC Story. On va conclure notre discussion à propos enflammable. Avec
comme le pétrole.
Charles Consigny, avec Laura Vartan-Martinez, avec Jean-Loup Bonamy, à propos de la tactique de Donald Trump. Est-ce qu'il doit frapper encore plus fort ou pas pour
faire
parvenir à ses buts? Amir est avec nous. Il est franco-iranien. Bonjour Amir.
Oui, bonjour.
Responsable de stock, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe? Est-ce que Donald Trump doit encore monter le ton et les frappes?
Oui, alors tout à fait. Alors, je suis en préambule, en fait, j'aimerais juste dire, donc j'ai 47 ans, je suis né en Iran. Ma mère nous a fait quitter avec ma sœur, en fait, l'Iran à l'âge de 8 ans, juste avant la fin de l'Iran-Irak, pour qu'on puisse grandir et pour étudier en liberté dans un pays libre. Parce que ma sœur à 13 ans était obligée déjà de porter le voile et que moi à 18 ans j'aurais été obligée d'aller faire le service militaire pour les gardiens de la révolution, ce que ne voulait personne. Et Trump, en fait, c'est pas quelqu'un que j'apprécie, mais que là en ce moment je soutiens énormément parce qu'en fait le peuple iranien est désarmé dans le pays. Donc Jean-Loup dit ils ont qu'à faire la révolution, mais ils l'ont déjà essayé plusieurs fois depuis 2022. Et que malheureusement, à chaque fois, ils se font massacrer, tuer, parce que la République islamique, et il faut pas dire l'Iran, il faut dire la République islamique, s'il vous plaît, font venir en fait des milices d'Afghanistan, du Pakistan, d'Irak, pour qu'ils puissent massacrer en fait le peuple iranien, qui sont désarmés. Donc oui, on soutient Trump.
Et vous pensez que la stratégie est la bonne ou pas, là, Amir?
Parce que j'arrive encore à avoir des petits échanges avec de la famille là-bas grâce à des échanges internet, un message uniquement parce qu'on n'arrive pas à les appeler. ils arrivent, ils sont plutôt pour également en fait ce qui se passe et qui voudraient que ça aille plus vite et plus fort.
Amir, dans le suivi de ce conflit, les choses sont assez inégales parce qu'effectivement, on sait exactement ce qui se passe aux États-Unis, grande démocratie, avec du débat, avec les gens qui critiquent Trump, qui soutiennent, etc. Malheureusement, dans cette République islamique, on a très peu d'informations. On ne sait pas précisément à quel point le régime est affaibli par la mort de ses dirigeants. Le chef du renseignement des gardiens de la Révolution vient d'être tué, par exemple. Chaque jour, il y a une tête qui tombe. On ne sait pas précisément comment ça fait vaciller le pouvoir. Et ma question, c'est est-ce qu'on peut imaginer, une fois le conflit terminé, un pouvoir quand même très affaibli et l'occasion cette fois-ci d'arriver enfin à renverser ce pouvoir?
Je pense que oui, c'est parce que là déjà on voit que les Basidji et les gardiens de la Révolution sont très affaiblis puisqu'ils continuent à aller chercher des militaires à l'extérieur du pays pour pouvoir les aider parce que avec des bombardements, ils ont quand même été pas mal affaiblis. Et que derrière, oui, une fois que vraiment les grandes têtes seront tombées, je pense que là, le peuple pourra reprendre également le pouvoir.
Avec qui à sa tête? Qui pourrait, voyez, d'un coup, dire à Trump, c'est bon?
La seule personne qui est capable actuellement et qui est soutenue par un grand nombre de la diaspora iranienne, mais aussi à l'intérieur du pays, c'est Reza Pahlavi.
Le fils du chat.
Qui nous a fait un long liste de la transition parce qu'il veut pas revenir en tant que monarque. Il veut juste venir refaire la transition, remettre le pays en ordre. Et il sera pas tout seul puisqu'il sera accompagné également, par exemple, de la prix Nobel de la paix.
Et ensuite des élections, c'est ça?
Exactement, après des élections. Et lui, ils sont retirés, en fait,
Vous êtes en train de dire que l'Iran souhaite une démocratie. Je vous en remercie tellement, Amir. Je vous remercie. Ça éclaire quelques personnes sur ce plateau.
L'Iran souhaite de redevenir une démocratie, ni une monarchie, ni une république islamique.
Je suis un peu surpris, donc je comprends tout à fait votre point de vue, Amir, mais bon, vous l'avez dit vous-même, vous êtes dans la diaspora en France, donc vous n'êtes pas sous les bombes actuellement, d'une part, et vous n'êtes pas en Iran.
J'ai grandi sous les bombes, pendant la guerre Iran-Irak.
Tout à fait, mais là, actuellement, en 2026, vous n'êtes pas sous les bombes.
J'aimerais bien y aller, mais malheureusement, je ne peux pas y aller.
Pourquoi vous ne pouvez pas y aller?
Parce que, déjà, je suis, même à 47 ans, si je rentre au pays, malgré ma double nationalité, ils me prennent mon passeport et ils me gardent dans le pays pour que je puisse aller faire le service militaire avec eux et que je sois mis sous les gardes avec l'arme dans les mains, quoi.
Et d'autre part, moi j'ai un peu du mal, l'Iran veut une démocratie. C'est comme si je disais, en France, il y a 35% des gens qui votent pour le Rassemblement National. Donc la France veut Jordan Bardella. Ou à l'inverse, il y a 30% des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron. Donc la France veut Emmanuel Macron. Mais en fait, l'Iran, c'est une réalité plurielle.
Il y a la chance de pouvoir décider de voter.
Mais il y a des élections sur l'Iran. L'Iran est une société complexe. On pense qu'il y a une minorité, mais une grosse minorité quand même de gens qui soutiennent le régime, à peu près 20-25% de la population qui soutient le régime. C'est une minorité, mais c'est suffisant pour plonger le pays dans la guerre civile.
Alors, allez-y, Amir.
Jean-Loup, est-ce que vous êtes déjà allé en Iran?
Oui, je suis déjà allé en Iran.
Vous êtes allé visiter quelle ville?
Téhéran.
Voilà. Vous n'avez pas visité le pays.
Au passage, il a été recruté par les Mollahs, manifestement.
Allez-y, Amir, allez-y.
Moi, j'ai eu la chance de pouvoir y aller en 2015-2016, quand il y a eu les accords avec Obama, où j'ai eu l'autorisation de pouvoir y retourner. J'ai pu amener ma femme qui est française et je peux vous dire que je suis allé lui faire visiter tout le pays. Elle a découvert un pays magnifique. Elle a pu discuter avec des gens. Elle a vu ce que c'était le pays, l'Iran, ce que c'était l'Iran et pas la République islamique. Parce que quand vous allez qu'à Téhéran, malheureusement, vous tombez sur énormément des proches du gouvernement. Alors que quand vous allez visiter un petit peu les autres pays, que ça soit l'Isfahan, que ça soit Persépolis, que ça soit Shiraz, que ça soit plein d'autres villes, vous découvrez ce que c'est vraiment l'Iran. Et là, vous pouvez échanger avec les gens et vous voyez comment sont les Iraniens. Et Téhéran n'est pas une image à 100% de ce que représente l'Iran.
C'est quand tu imagines ce que c'était l'Iran avant, la culture, les couleurs, les habits traditionnels, ils sont en train de ravager ce qu'il y a de plus beau. Et toi, tu les défends, je ne sais même pas comment tu fais.
Vous avez les plus grandes synagogues qui sont en Iran et ça, malheureusement, ils sont encore, moi, en 2015-2016, quand je suis allé visiter. C'était magnifique. Et malheureusement, je ne sais pas dans quel état on va les retrouver, ces monuments, quoi.
Ah oui, surtout avec des bombardements.
Non, non, c'est en interne que c'est détruit, Jean-Loup, c'est pas les bombardements. Les bombardements sont ciblés exactement, ils savent tuer quelqu'un dans son appartement, ils n'ont pas besoin de massacrer. Je peux vous envoyer des photos, des images, des vidéos en direct de Téhéran, vous avez les bâtiments qui sont encore debout. Les seuls bâtiments qui sont détruits, ce sont ceux où il y a la République islamique qui ont mis leur base dedans. Et le truc, c'est qu'ils se mettent dans des écoles et qu'après, malheureusement, ils vont dire que c'est les États-Unis ou l'Israël qui ont tué l'Iran, alors que c'est faux. C'est leur base qui sont dans ces écoles. Ils se mettent exactement pour mettre les civils comme bouclier pour se protéger.
Et vous avez encore une bonne partie de votre famille là-bas, Amir?
Oui, j'ai encore de la famille là-bas, des amis.
Vous arrivez à avoir, malgré la coupure d'Internet et la censure, vous réussissez à avoir quand même des messages?
Ils arrivent à avoir encore des messages écrits par WhatsApp grâce au VPN ou grâce également à Starlink
d'Elon Musk.
Mais donc vous pensez que le régime peut tomber, vous?
On l'espère fortement et là, vraiment là, de plus en plus, quoi. C'est, de toute façon, c'est pas viable derrière, quoi.
Merci Amir de votre témoignage. Merci d'avoir
merci
été.
Merci à vous. Et j'aimerais remercier Olivier pour toutes ses paroles par rapport à Jean-Loup qui ne fait que défendre les mollahs. Et merci
je
Olivier.
Ne défends pas les mollahs. Jean-Loup, je condamne les mollahs. Une aventure
vive la liberté.
Qui va nous amener au fiasco.
Vive la liberté partout et pour les Iraniens également.
Vous puissiez venir tous visiter l'Iran, ce magnifique pays. Avec plaisir. Découvrir son peuple.
J'en rêve, Amir.
Jean-Loup se rend chaque mois à l'ambassade d'Iran à Paris.
Où j'émerge.
Il en ressort avec une grande enveloppe Kraft.
Ah bah, ma fortune immobilière, moi, vient de l'ambassade.
Et on pourrait rappeler le slogan, juste pour énerver Jean-Loup, on rappelle le slogan.
Il se rend directement, en général, avenue Montaigne.
Juste pour énerver Jean-Loup, femme, vie, liberté.
Ça ne m'énerve pas du tout.
Exactement.
Mais moi, ce slogan ne m'énerve pas du tout.
Olivier, allez-y, Amir. J'aimerais bien que vous invitiez quelqu'un de femme, vie, de l'association Femmes Azadi. Que ce soit Mona Jafarian ou une autre personne qui vienne parler aussi un petit peu de l'Iran et que vous qui mette les contradictions de Jean-Loup en direct à la télévision.
Avec grand plaisir.
Vous venez de le
et
faire.
Et par ailleurs,
bien donné aussi la parole à une femme. C'est
non mais par ailleurs, j'ai une grande sympathie pour le mouvement Femmes, Vie, Liberté, mais cela ne doit pas nous amener à faire des guerres. En aucun cas, notre sympathie tout à fait réelle pour ce mouvement ne doit nous amener à nous lancer dans des aventures qui seront un fiasco.
Donc quand un pays tue 50 000 civils...
En deux jours, il faut le condamner aussi, Jean-Loup.
C'est ce que j'allais dire, quand un pays tue 50 000 personnes, 50 000 civils, toi tu lui réponds avec une boule puante.
Donc il faut faire la guerre à tous les pays qui ont réprimé très durement.
Jean-Loup, il ne fallait pas condamner ce qui se passait à Gaza?
Pardon. Ben, on n'a pas fait la guerre à Israël. Non, c'est une excellente comparaison. Non,
Israël.
On a pas bombardé Israël.
Tu étais très virulent là-dessus.
Oui. Tout à fait. Ben, je suis toujours. Et ben, tu vois bien, on n'a pas bombardé Israël.
Tu demandais bien une intervention française. Tu disais que la France ne doit pas attaquer militairement Israël.
J'ai jamais dit que la France
devait attaquer Israël. Mais tu disais qu'il fallait tout faire pour empêcher ça.
Oui. Ben, j'ai jamais dit que la France devait bombarder Israël. Je me suis pas dit, oh, tiens, il y a 50 000 morts à Gaza, on va bombarder Israël. J'ai jamais dit ça. Ça aurait été absurde. Tu vois, absurde militairement, politiquement. Donc, j'ai jamais dit ça. Et ben, c'est pareil pour l'Iran. C'est pas parce que l'Iran massacre sa population, de même qu'Israël a massacré à Gaza. Et ben, c'est pas une raison pour, attaquer l'Iran. On n'a pas attaqué Israël, évidemment. Personne n'a pensé à attaquer Israël. Et ben, c'est pareil. Il n'y a pas de raison d'attaquer l'Iran et de se lancer c'est encore dans une impasse politique.
Et Trump doit-il frapper plus fort? C'est là. Merci Amir d'avoir été des nôtres au 32-16. Trump doit-il frapper plus fort? Mais c'est quand même un oui à 80%.